La Philippine, 11h30 temps universel, midi et demi ici à Paris, 14h30 à Moscou.
RFI Midi, Charlotte Idrac.
De Kiev à Port-au-Prince, en passant par Bakou et Bangui, RFI Midi, on va faire le tour du monde. Bonjour. Avec à la une ce jeudi 21 novembre, ces accusations de l'Ukraine. Kiev affirme ce matin que la Russie a tiré un missile intercontinental sur son territoire. Ce serait la première fois et en pleine escalade dans le conflit avec l'utilisation par l'armée ukrainienne de missiles occidentaux de longue portée. Pas de commentaire du Kremlin à ce stade. Les propos sans filtre d'Emmanuel Macron sur Haïti en marge de sa tournée en Amérique latine. Quelques petites phrases prononcées par le président français sur le récent limogeage du Premier ministre haïtien Gary Conille.
Le Premier ministre était super, il est défendu, ils l'ont viré. C'était terrible, mais terrible. Moi je peux pas remplacer, ils sont complètement cons. Ils auraient jamais dû le sortir.
Une vidéo tronquée est prise dans un cadre privé selon l'Élysée. Haïti est le chaos sécuritaire, les gangs font la loi. Comment faire face à cette ultra-violence? On y reviendra avec notre invité. 12h30 temps universel, Afrique Midi avec cette enquête sur la machine de la désinformation en Centrafrique. La désinformation russe, Efrem Yalike, en a été l'un des rouages, notamment pour organiser des manifestations contre l'ONU.
Je dois cibler un leader, je lui demande est-ce qu'il a la capacité de mobiliser 500 personnes. Je remets l'enveloppe au leader, c'est au leader maintenant d'aller partager.
Et chaque jeune qui vient reçoit environ 2000 francs, 3 euros.
Environ 2000 francs, c'est fort.
Efrem Yalike sur RFI dans un petit peu moins d'une heure. L'impatience à la COP29, toujours pas de compromis à Bakou à la veille de la clôture de la conférence climat. Ça bloque, selon le chef de l'ONU, l'échec n'est pas une option. À suivre aussi une église 2.0 en Pologne, l'intelligence artificielle expérimentée pour attirer les fidèles. Et puis, beaucoup plus léger, une banane scotchée à un mur vendue aux enchères pour plus de 6 millions de dollars. Le monde est fou, le monde dans sa diversité. RFI Midi, bienvenue, c'est parti.
RFI, l'Europe à midi.
Oui, c'est l'armée de l'air ukrainienne qui l'a annoncé ce matin dans un communiqué. Selon elle, la Russie a donc tiré un missile balistique intercontinental pour la première fois et sans charge atomique. Ces missiles sont conçus pour transporter des ogives nucléaires et pour frapper à des milliers de kilomètres de distance. Alors, pas de commentaire pour l'heure. À Moscou, le porte-parole du Kremlin a simplement répondu « Je n'ai rien à dire sur ce thème ». Au-delà du communiqué de l'armée de l'air ukrainienne, il y a des images qui circulent d'une frappe à Dnipro, c'est dans le centre-est de l'Ukraine. Que nous disent ces vidéos, Olivier Four?
Alors, les images qui circulent depuis ce matin sont impressionnantes. Elles proviennent d'une chaîne Telegram ukrainienne, une chaîne locale. Elles montreraient donc une frappe russe contre une usine située à Dnipro, donc en territoire ukrainien. Pour l'heure, c'est la seule vidéo qui semble assez probante. On peut voir dans la nuit pas moins de 6 salves, peut-être 6 têtes, avec à chaque fois une série de projectiles lumineux qui s'abattent sur l'usine. La cellule infovérif de RFI a réussi à géolocaliser la scène. Elle a été filmée depuis une caméra de surveillance ou une webcam installée sur un balcon d'un immeuble qui est situé en face de l'usine qui a été visée. Le timecode de la caméra indique 5h17 local, soit 3h17 en temps universel. Les commentaires annoncent l'utilisation d'un ICBM, c'est-à-dire un missile intercontinental. Pour simplifier, vous l'avez dit, un missile d'une portée supérieure à 5500 km. L'armée ukrainienne parle, elle aussi, d'un ICBM.
Mais sur la vidéo, on ne peut pas identifier le missile, le lanceur.
Voilà. Si les images n'ont pas été accélérées, on peut voir à l'écran une scène que l'on n'a jamais vue jusqu'alors, des têtes multiples qui frappent le sol ukrainien à grande vitesse, un scénario digne de la guerre froide, des têtes, vous l'avez dit, heureusement conventionnelles, classiques, sans charge nucléaire, on ne voit aucune détonation significative. Il s'agit peut-être d'objets qui sont de simples leurres ou des engins inertes destinés à des essais, à des tests. Quoi qu'il en soit, c'est un signal envoyé par les Russes en jouant sur l'ambiguïté, car ces mêmes engins auraient pu être nucléaires. En tout cas, les images et les commentaires ont envahi la toile ce matin et bien au-delà de l'Ukraine.
Olivier Four de la cellule InfoVérif, on le disait, Kremlin n'a pas fait de commentaires sur ces annonces qui nous viennent d'Ukraine. En tout cas, un tir de missile intercontinental russe marquerait une escalade claire selon un porte-parole de la Commission européenne. Effectivement, une escalade dans le conflit face à la Russie, sachant que Moscou affirme avoir abattu deux missiles britanniques longue portée Storm Shadow lancés par l'Ukraine. L'Ukraine avait déjà tiré des missiles américains à TACMS à longue portée en territoire russe. Alors est-ce que ces armes fournies par les Occidentaux peuvent changer la donne? Est-ce qu'elles peuvent inverser la tendance, sachant que l'Ukraine n'en dispose qu'en petit nombre? Voilà ce qu'en dit Guillaume Ancel, ancien officier français, chroniqueur et auteur du blog « Ne pas subir ».
Les Ukrainiens disposent en réalité de quelques centaines d'exemplaires, ou vont disposer de quelques centaines d'exemplaires. J'explique pourquoi. Les missiles Storm Shadow et Scalp n'existent qu'en centaines d'exemplaires, c'est-à-dire que la Grande-Bretagne et la France ne peuvent en livrer que quelques dizaines. Les Américains disposent de stocks en milliers du missile ATACMS, et donc ils peuvent en livrer des centaines, ce qui logistiquement ne pose pas beaucoup de problèmes. Mais on voit bien que un missile, par exemple ATACMS, c'est l'équivalent d'une salve d'artillerie, ça vous détruit l'équivalent de la surface d'un terrain de football. C'est pas avec quelques centaines de missiles ATACMS que la guerre se retournera, mais par contre ça commettra beaucoup de dégâts contre l'armée russe, et c'est ça que veulent les Ukrainiens avant qu'on les oblige à aller à une table de négociation.
Voilà, le chroniqueur Guillaume Ancel, je vous rappelle donc ces dernières informations, ces accusations de l'Ukraine qui affirme que la Russie a tiré un missile intercontinental sur son territoire. On y reviendra bien sûr dans nos prochaines éditions.
RFI. L'Europe à midi.
L'actualité à chaud et avec du recul aussi sur RFI. Retour sur les violences d'Amsterdam il y a tout juste deux semaines. En marge du match Maccabi-Tel Aviv, donc aux Pays-Bas, ces violences qualifiées d'antisémites qui avaient suscité l'émotion de vives réactions aux Pays-Bas et également à l'étranger. On va y revenir à la lumière des dernières informations avec vous, Carlotta Morteo. Bonjour.
Bonjour à tous.
Tout d'abord, où est-ce qu'on en est dans l'enquête?
Alors, la police néerlandaise a annoncé dimanche qu'elle enquêtait sur 45 personnes. 9 sont actuellement incarcérées, mais le nombre de suspects peut encore augmenter à mesure que les autorités analysent les images très nombreuses issues des caméras de surveillance et des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Une équipe d'enquête spéciale a été mise sur pied. Elle est revenue sur le déroulé de la soirée. Ce qui s'est passé après le match, bien sûr, des supporters israéliens poursuivis par des hommes en scooter qui leur demandent leurs papiers, les bousculent, les frappent au sol. 5 personnes ont fini à l'hôpital grièvement blessées. La police a déclaré que les agresseurs avaient été encouragés par des appels à attaquer des juifs sur les réseaux sociaux. Mais le commissaire a également rappelé ce qui s'est passé avant le match de football. Le fait que les supporters du Maccabi Tel Aviv ont scandé dans la rue et les transports en commun des slogans anti-arabes, qu'ils ont vandalisé un taxi et brûlé un drapeau palestinien sur la principale place d'Amsterdam. Des provocations qui n'excusent en rien les violences, mais qui avaient largement été éludées par les politiques et les médias dans les premiers jours qui ont suivi le match.
L'affaire s'est très vite politisée aux Pays-Bas. Carlotta, le Premier ministre Dick Schoul a imputé la violence aux personnes issues de l'immigration.
Oui, en 24 heures à peine, alors qu'à l'heure d'aujourd'hui, on n'a toujours pas d'informations précises sur le profil des agresseurs. C'est le supposé manque d'intégration des communautés musulmanes qui est devenu le centre de gravité du débat. Je rappelle que le gouvernement néerlandais est une coalition de droite qui inclut le parti d'extrême droite de Geert Wilders, arrivé en tête aux dernières législatives. Il est connu pour ses positions anti-islam, anti-immigration. Il a donné le ton dans cette affaire puisqu'il est l'un des premiers à avoir réagi. Il a qualifié les événements de chasse aux juifs, de pogrom même, accusant, je cite, de jeunes musulmans, des Marocains, qu'il fallait déchoir de leur nationalité ou expulser s'ils n'étaient pas résidents aux Pays-Bas. Une rhétorique partagée par l'ensemble de la droite. La secrétaire chargée aux finances a même démissionné, expliquant que ses collègues de coalition, et pas seulement des nationalistes mais des libéraux, avaient eu des propos d'un racisme effronté lors de réunions. Le débat public s'est enflammé. La maire d'Amsterdam, l'écologiste Femke Halsema, qui avait déclaré au lendemain du match qu'elle comprenait pourquoi ces événements rappelaient à certains les pogroms contre les juifs, a fini par regretter avoir utilisé ce terme.
Je dois dire que dans les jours qui ont suivi, j'ai vu comment le mot pogrom est devenu très politique et s'est transformé en propagande. Le gouvernement israélien parle d'un pogrom palestinien dans les rues d'Amsterdam. Ici, aux Pays-Bas, le mot est principalement utilisé pour discriminer les Amstelodamois marocains, les musulmans. Ce n'est pas ce que je voulais dire.
Les précisions donc de la maire d'Amsterdam. Alors demain, le gouvernement néerlandais va présenter un plan de lutte contre l'antisémitisme. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre ?
Alors, outre les fermetures de mosquées salafistes, des sanctions pour les organisations qui prêchent la destruction du peuple juif et d'Israël, des fonds supplémentaires pour garantir la sécurité des écoles et des institutions juives aux Pays-Bas, des mesures somme toute classiques, le gouvernement veut pouvoir expulser les étrangers qui commettent des actes antisémites et souhaite que des lieux de mémoire tels que le camp Westerbork où ont transité plus de 100 000 victimes de la Shoah, dont Anne Frank, que ces lieux deviennent un passage obligé pour les jeunes néerlandais qui relaient des propos antisémites. Le ministre de la Justice a chiffré à 4,5 millions d'euros ces mesures.
Retour sur les violences d'Amsterdam, dossier signé Carlotta Morteo. Tout de suite, on part en Pologne. La Pologne considérée comme le bastion catholique européen. Et là-bas, seuls 7 Polonais sur 10 se déclarent catholiques aujourd'hui. C'est moins qu'il y a 10 ans, 2 de moins qu'il y a 10 ans. Alors pour redorer son attractivité, l'Église tente de se dépoussiérer, de se renouveler pour moderniser son image. Notre correspondant, Adrien Sarlat, s'est rendu dans la chapelle Wacina, une église 2.0. Elle est équipée d'une intelligence artificielle pour seconder le prêtre.
Bonjour et bienvenue dans la chapelle de Wacina à Poznan. Pour parler avec moi, appuie sur le bouton rouge et commence à parler.
Cette voix qui résonne entre les murs blancs de la chapelle de Wacina n'est pas celle du prêtre Radek Radowski, mais celle de l'intelligence artificielle qui lui sert d'assistant.
Cette IA est capable de faire des sermons simples, car quand elle explique le passage d'un évangile, c'est comme si elle en faisait une interprétation rapide et qu'elle donnait des conseils sur la façon de l'appliquer dans la vie. Donc c'est une expérience assez intéressante.
Il faut dire que cette chapelle en elle-même est une expérience en soi. Ici, pas d'architecture gothique, de vitraux ou de statues de pierre. Le lieu de culte a été logé au rez-de-chaussée d'un immeuble d'habitation dans un quartier résidentiel moderne. Un espace de partage ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 aux paroissiens qui peuvent en déverrouiller la porte grâce à une application mobile.
Quasiment chaque jour, à 7h du matin, des fidèles viennent pour méditer au calme, ou à 22h, après avoir couché les enfants, pour y trouver un peu de quiétude.
Et même en l'absence du père Radek, les paroissiens n'ont qu'à appuyer sur le bouton rouge du pupitre de lecture pour interagir avec l'intelligence artificielle.
Et on peut même poser des questions plus compliquées, par exemple, qu'est-ce que l'adoration ? Qu'est-ce qu'une confession ? Comment procéder pour se confesser ?
Selon lui, elle a aussi pour avantage de donner des réponses très factuelles sur les fondements de l'Église, sans laisser place au jugement ou à l'émotion.
Par exemple, quand on lui pose la question de l'homosexualité dans l'Église, elle ne la dénonce pas, elle ne dit pas que c'est mal, mais elle rappelle que chaque homme est créé à l'image de Dieu et mérite le respect.
Malheureusement, l'Église catholique ne prodigue pas les sacrements aux couples de même sexe. Si tu as davantage de questions ou que tu veux parler de cette thématique, je t'invite à te rapprocher directement du prêtre.
Une technologie plutôt bien accueillie dans ce quartier où vivent de nombreux jeunes couples, mais même à 64 ans, Donata ne s'est pas laissée déstabiliser par l'intrusion de l'IA dans son lieu de culte.
Je suis à la page quand même. C'est nécessaire et c'est fascinant, car on peut lui poser différentes questions, même certaines que l'on n'oserait pas poser au prêtre.
Mais selon le père Radek, les haut-parleurs suspendus aux quatre coins de la pièce et l'algorithme qui les fait parler n'ont aucune chance de le remplacer un jour.
L'intelligence artificielle n'est qu'un outil, rien ne remplace le contact, l'amour, le regard, la relation, l'énergie qu'on dégage. Bien sûr, en tant que prêtre, je pourrais tout expliquer à chaque fois en partant d'Adam et Ève et dérouler toute l'histoire de l'Église. Mais nous ne devons pas perdre de temps là-dessus, à une époque où chacun peut avoir accès aux connaissances par lui-même.
En juin 2023, déjà en Bavière, l'Église allemande avait confié les rênes d'une messe à ChatGPT. Mais la chapelle de Wacina est la première au monde à avoir intégré ce système à son fonctionnement. Et visiblement, les paroissiens en redemandent, puisque seulement 2 ans après son ouverture, la chapelle est devenue trop petite pour tous les accueillir. Un agrandissement de 50 mètres carrés est prévu d'ici fin novembre.
reportage en Pologne signé Adrien Sarla, à retrouver avec bien d'autres dans Accent d'Europe, la vie quotidienne des Européens, émission à retrouver à 19h10, temps universel.
RFI. L'Europe à midi.
Pour l'heure 12h45 ici à Paris, on parle parfois du phénomène des small boats, ces canots de migrants qui tentent la traversée de la Manche vers l'Angleterre. La préfecture du Pas-de-Calais, dans le nord de la France, a publié un chiffre hier. 71 personnes sont décédées dans ce genre de traversée depuis le début de l'année. C'est un record. Au-delà des chiffres, des drames, il y a des hommes, des femmes, des parcours, des odyssées. Et c'est pour raconter tout cela que la rédaction du site Info Migrants s'installe à Calais, dans le nord de la France, pour un mois. Bonjour Dana Albauz.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, justement, à Info Migrants. Pourquoi cette délocalisation?
Nous avons choisi d'aller sur le terrain, dans le nord de la France, pour être au plus près des exilés, pour raconter ce qui se passe sur place. D'habitude, nous, à Info Migrants, on fait des missions assez rapides à Calais. On fait des allers-retours, des missions de 48 heures, pour couvrir des sujets prévus à l'avance, déjà définis. Mais en fait, à chaque fois, en parlant avec les personnes concernées... Exactement, en parlant avec les personnes concernées, des histoires surgissaient. Il y a d'autres sujets qu'on a envie de traiter, mais on n'a pas assez temps. C'est pour ça, cette fois, nous avons pris cette décision d'approfondir, d'échanger avec les différents acteurs concernés par la question migratoire, les exilés, les bénévoles, les associations, mais aussi les autorités.
Besoin de temps, donc. Alors, depuis des années, Calais, c'est un point de passage quasi obligé pour les candidats à l'immigration au Royaume-Uni. Quelle est leur situation à l'heure actuelle?
Selon ce qu'on a vu sur le terrain, en fait, hommes, femmes, enfants, ils risquent tous leur vie pour traverser, pour arriver à leur destination souhaitée, leur destination finale qui est l'Angleterre. Nous sommes allés à la rencontre de ces exilés qui survivent dans des conditions précaires, notamment à Calais et à Grande-Synthe. Ils sont dans de petits camps dispersés. Ils attendent plusieurs mois, des fois plusieurs, vraiment plusieurs mois, le temps de trouver l'occasion pour traverser. Et effectivement, en fait, depuis le début de cette année, il y a plus de 30 000 migrants qui ont réussi à traverser la Manche, d'après les chiffres du Home Office, le ministère de l'Intérieur britannique. Mais ce qui nous a poussé, nous, Info Migrants, de faire cette délocalisation, c'est avant tout la dangerosité de cette traversée de la Manche à bord, comme vous l'avez dit, de small boat ou les petits bateaux.
On le voit avec ces chiffres de
Exactement.
La préfecture.
Et le chiffre vraiment qui est un chiffre record, un chiffre inédit dans la Manche, c'est qu'il y a eu, comme vous l'avez dit, au moins 71 migrants qui ont perdu la vie dans la Manche. Et pendant cette semaine passée dans le nord de la France et à Calais, avec mes collègues Charlotte Boitiot et Manny Cosro, nous avons rencontré des exilés venus de nombreux pays, Soudan, Érythrée, Syrie, Irak et Afghanistan. Et grâce à notre équipe à Info Migrants, comme on est une équipe multilingue, nous avons pu recueillir des témoignages et parler avec les exilés sur les conditions de traversée et les drames qu'ils ont vécus ou même témoignés. Je vous propose d'ailleurs d'écouter Ahmed, un jeune Syrien qu'on a croisé à Calais la semaine dernière.
J'ai essayé de traverser la mer plus de 7 ou 8 fois, mais à chaque tentative, des problèmes surviennent. Soit la police intervient pour percer le bateau, soit elle nous empêche de le gonfler et de monter à bord. Une fois, nous avions presque parcouru la moitié du trajet, mais le moteur est tombé en panne et les autorités nous ont secourus. D'habitude, il y a entre 50 et 70 personnes par bateau. Mais quand il y a trop de monde, il ne faut pas monter ni prendre le risque. C'est une route meurtrière. Il y a 15 jours, un groupe d'une quinzaine de personnes a disparu. Ils ont repêché les corps de 2 Syriens et de 2 Égyptiens, mais les autres sont portés disparus jusqu'à aujourd'hui.
Voilà, Ahmed évoque ces cas de disparition. On évoquait tout à l'heure le chiffre de la préfecture, plus de 70 morts déjà cette année. Mais est-ce que ces disparitions dont parle Ahmed sont comptabilisées?
Alors, question un peu compliquée. La préfecture maritime de la Manche ne recense que 3 disparus cette année. Pourtant, selon les témoignages qu'on a recueillis sur place et selon les ONG que nous avons croisées dans le nord de la France, le nombre de disparus serait bien plus élevé. Nous avons interrogé le porte-parole de la Prémar qui a confirmé que le bilan des morts pourrait en effet être plus lourd. Il explique que les disparus ne sont pas comptabilisés que lorsque les équipes de secours, les équipes françaises, maritimes ou aériennes, voient et constatent de leurs propres yeux de la présence de corps ou de personnes disparues qu'elles n'ont pas pu secourir. Et en fait, la Prémar est responsable des opérations de recherche et de sauvetage en mer. Du coup, l'identification des victimes et la reconnaissance officielle des disparitions relèvent de la responsabilité du procureur. Donc, c'est un processus assez long et complexe aussi.
Mais comment est-ce qu'on pourrait comptabiliser ces disparus? Est-ce qu'on pourrait se baser, par exemple, sur les témoignages de migrants, comme c'est le cas ailleurs, aux Canaries, par exemple?
En fait, c'est au procureur, c'est au parquet de rassembler les preuves et de constituer des dossiers pour ensuite reconnaître les cas de disparition. Et pour les proches de migrants, disparus, en fait, signaler un cas s'avère particulièrement difficile. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, en fait, à cause de la barrière de la langue, et souvent, ce sont des nouveaux arrivants qui ne savent pas comment procéder au signalement. Mmh. C'est le cas d'un Irakien porté disparu depuis le 30 octobre dans la Manche, selon les témoignages que nous avons recueillis la semaine dernière. Abbas Najm al-Din, un jeune Irakien de 21 ans, aurait disparu lors de la traversée depuis Boulogne-sur-Mer. Son ami qui l'accompagnait ce jour-là nous a raconté ce qui s'est passé. Ils étaient dans l'eau avant même de pouvoir monter à bord du bateau. La marée les a emportés et il l'a perdu de vue. Abbas, comme beaucoup d'exilés qui tentent cette traversée, ne savait pas nager. Nous avons aussi réussi à rentrer en contact avec son cousin Mortada, qui est arrivé à Calais avec Abbas en octobre dernier. Et il essaye actuellement, avec l'aide d'ONG locales, de signaler la disparition, mais la procédure est loin d'être simple. Nous avons aussi réussi à contacter la mère d'Abbas, qui est toujours en Irak. Elle supplie pour récupérer le corps de son fils pour pouvoir enfin faire son deuil.
Ces témoignages, reportages, donc, à suivre avec vous, Dana Albos et vos collègues sur le site infomigrant.net et sur les réseaux sociaux. J'ajoute cet appel de plusieurs maires du littoral français hier qui ont dénoncé l'hypocrisie du Royaume-Uni qui appelle Londres à ouvrir les voies d'immigration légale des mers excédées par une gestion de crise permanente. Merci Dana.
RFI Midi. Un monde de tech.
Et l'occasion de ce congrès des maires de France à Paris, ça a été l'occasion justement d'une étude sur la cybersécurité dans les administrations locales françaises. Est-ce qu'elles sont résistantes aux hackers? Bonjour Dominique Desonnet.
Bonjour Charlotte.
Selon le dernier baromètre OpinionWay pour l'organisme cybermalveillance.gouv.fr, la réponse est assez claire, c'est non.
Eh bien oui, c'est à l'occasion de sa participation au Salon des maires et des collectivités locales que le site cybermalveillance.gouv a dévoilé sa troisième étude sur la maturité des collectivités en matière de cybersécurité. Et le moins que l'on puisse dire est que le bilan 2024 n'est pas très brillant. L'organisme du gouvernement français souligne une prise en compte des menaces cyber insuffisante et constate que la fracture numérique dans le domaine de la cybersécurité s'accentue entre les petites communes et celles de plus de 1000 habitants. Par ailleurs, l'étude révèle un paradoxe assez singulier. 53% des administrations locales affirment disposer d'une protection numérique satisfaisante et d'une perception accrue des dangers des attaques informatiques par rapport à 2023. Mais la plupart d'entre elles ne savent pas si elles ont été victimes d'un piratage ou d'un vol de données. Par ailleurs, 7 des collectivités sur 10 qui ont été interrogées fonctionnent avec un budget informatique annuel inférieur à 5000 euros. Plus inquiétant encore, les trois quarts consacrent moins de 2000 euros à leur sécurité numérique, nous explique Laurent Verdier, directeur du pôle sensibilisation chez cybermalveillance.gouv.
À notre niveau, nous percevons que les attaques s'amplifient à l'encontre des collectivités. Et ce qui est intéressant dans cette étude, c'est le fait qu'une collectivité sur 10 déclare avoir déjà été victime d'une cyberattaque sur l'année écoulée. Ce qui nous intéresse, c'est aussi de connaître les raisons pour lesquelles ces collectivités ont du mal à s'approprier, à s'équiper, à se sécuriser. Le frein principal est un manque de connaissances. Deuxième frein mentionné, le manque de budget. On note que 77% des collectivités indique dépenser moins de 2000 euros pour leur cybersécurité. Et ça, c'est effectivement troublant, sachant que ce chiffre augmente à 87% pour ces fameuses collectivités de moins de 1000 habitants.
Et du côté des pirates, Dominique, la technique de l'hameçonnage reste la principale menace, et ça rencontrée par les collectivités et les administrations territoriales.
Effectivement, ça marche très bien. Faux courriels, messages empoisonnés par des virus informatiques et usurpation d'identité figurent toujours parmi les armes préférées des cyberattaquants. Ces techniques de piratage fonctionnent très bien contre des petites mairies, par exemple, qui se retrouvent souvent avec un réseau Internet coupé et dans l'impossibilité de remplir en fait leur mission locale de service public. Dans un quart des cas relatés, le rapport de cybermalveillance.gouv, eh bien, les données des administrés ont été soit volées ou soit détruites avec cette méthode. Par ailleurs, les agents ne savent toujours pas comment réagir en cas d'attaque informatique. Ils ne se sentent pas non plus capables de juger si les offres proposées par les prestataires de solutions de cybersécurité sont vraiment bien adaptées à leurs besoins, indique le nouveau baromètre de la malveillance numérique en France.
Et l'étude recommande donc plus de sensibilité. Dominique Dezonnet, à demain pour un prochain Monde de Tech. 11h55 à Bamako, au Mali, où la junte vient de nommer le général Abdoulaye Maïga Premier ministre. On y reviendra dans un petit instant. En attendant, à Dakar, se poursuit la biennale de l'art contemporain, avec du in, du off, où les deux, Arebe Nor Bassène, participent justement aux deux programmations. Le plasticien sénégalais et l'invité de Juliette Dubois rencontrent à la galerie Célébeyonne de Dakar.
Je suis avec Arebe Nor Bassène, un peintre sénégalais. Arebe Nor, bonjour. Vous êtes peintre, mais j'ai lu que vous aviez fait de longues études en langues, civilisations et histoires africaines. Et vous dites vous considérer comme un historien. Qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est ça. En fait, moi, je me dis que tout est lié à l'histoire. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, si on veut le comprendre réellement, il faut se référer à l'histoire. Je n'hésite pas, dans mon expression artistique, aller fouiner dans l'histoire de mon peuple, l'histoire de l'Afrique. J'ai l'habitude de me référer à ma lecture, j'allais dire, ce que je pourrais appeler mes livres de chevet. Donc, les œuvres de Charente Diop en premier, de Ivan Van Sertima, de Rinoko Rachidi.
Est-ce que pour vous, comme pour certains de ces penseurs, l'Afrique a été un peu laissée de côté dans l'écriture de l'histoire et la manière dont on pense les civilisations, entre guillemets?
Ah, bien sûr, bien sûr. C'est vrai que on ne doit pas trop se victimiser. Moi, j'aime bien les pages glorieuses de l'Afrique. J'aime bien évoquer cela. Quand on parle de l'histoire de l'Afrique, on a souvent tendance à parler de l'esclavage perçu, de la colonisation par là, en oubliant ce qui me paraît être les pages les plus glorieuses de l'Afrique, notamment l'Andalousie. Nous avons assez d'éléments qui sont vraiment heureux depuis l'Égypte antique, ou bien même avant l'Égypte antique, la Nubie.
Et cette histoire lumineuse de l'Afrique, comment est-ce que vous la retranscrivez sur vos œuvres ?
Si vous regardez cette toile-là qui est devant moi, on a l'impression d'avoir, tu vois, c'est comme un personnage qui est suggéré, qui tient comme de l'or à sa main, tu vois. Donc, ceci rappelle un peu Kankamusa, qui est considéré par des chercheurs américains comme étant l'homme le plus riche de tous les temps. Des choses qu'on devait apprendre à nos enfants, des histoires qui devaient être enseignées à l'école.
Et vous utilisez aussi des matières, des textures typiquement africaines, comme le sable ou la gomme arabique, c'est ça ? Ça aussi, pour vous, c'est important ?
Vous savez, la gomme arabique, déjà, elle est chargée d'histoire. Les Européens, ils venaient chercher la gomme arabique, et même pour les productions artistiques. Des premiers peintres dans les compositions de peinture. Il y avait justement la présence de la gomme arabique. Elle peut jouer la fonction de fixatif de la couleur, mais également ça rendait un peu brillant la couleur, mais également ça contribuait à bien tendre la toile.
Qu'est-ce que vous espérez retirer de cette deuxième participation à la Biennale de Dakar, Arebe Nor ?
Le plus important à la Biennale, ce sont les premiers jours. Et donc, le commencement, c'est comme si le commencement, c'était la fin. Oui, parce que à la première semaine, le grand public est là, mais après, les gens viennent à compte-gouttes. Je m'attends à ce que le public réponde, et le public a répondu. Les collectionneurs également, ils sont venus. Donc voilà, je ne me plains pas. C'est tout ce qu'on demande, hein, d'avoir cette visibilité-là.
Merci beaucoup, Arebe Nor Bassène.
Arebe Nor Bassène, invité à Dakar de Juliette Dubois. Toute l'actualité africaine dans une demi-heure Afrique Midi, ce sera avec vous, Nicolas Sur, à la une.
Le Mali un militaire nommé Premier ministre, le général Abdoulaye Maïga, succède à Choguel Maïga limogé hier soir après des propos très critiques contre la junte au pouvoir.
Et on retrouve justement Serge Daniel dans un tout petit instant.
Et puis nous irons aussi en République démocratique du Congo, dans Afrique Midi, où des arrestations ont eu lieu après les actes de vandalisme contre le mausolée de Patrice Lumumba. 6 personnes ont été arrêtées.
Afrique Midi, midi et demi, temps universel avec vous, Nicolas Sura, tout à l'heure.